Bonsoir à tous, vous écoutez Les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde, et ce soir, Fukushima, une catastrophe pour rien. Bonsoir Nicolas Truong.
Bonsoir Agnès Chauveau.
Étrange humanité. Il y a tout juste un an, le 11 mars 2011, s'est produite au Japon l'une des pires catastrophes de l'histoire récente. Le séisme, le tsunami, puis la catastrophe nucléaire de Fukushima. Une triple tragédie. 20 000 morts et disparus, des villages rayés de la carte, des cultures et des économies anéanties. Et aujourd'hui encore, 340 000 réfugiés, plus de 22 millions de tonnes de décombres. Hier, à 14h46, 6h46 pour nous ce matin, la vie s'est figée au Japon pour une prière collective en hommage aux personnes emportées ou sinistrées. Et à Tokyo, le Premier ministre et l'Empereur ont promis de tout faire pour reconstruire la région ravagée et transmettre la mémoire de cette tragédie aux générations suivantes. Tandis que des milliers de personnes manifestaient contre l'atome, scandant le slogan « Sayorana », adieu aux centrales nucléaires, des prières et de la colère. Funeste anniversaire, car Fukushima est désormais l'un de ces noms de sinistre mémoire qui hantent l'histoire. Celui d'une catastrophe nucléaire qui frappa l'une des plus grandes puissances planétaires. Celui aussi de la peur de l'atome. L'Occident, tétanisé, se voit dans le miroir. Et pourtant, les façons de penser et d'agir ne se sont guère modifiées. Qu'il s'agisse du manque de transparence et des mensonges des autorités japonaises, ou encore de l'attitude des industriels et des États qui seraient presque prêts à tourner la page comme si de rien n'était. Oui, un an après, la plupart des programmes nucléaires ont été maintenus et une cinquantaine de pays ne dévient pas de leur route vers l'atome. Oui, un an après, le Japon a commencé à reconstruire ses villes, ses routes et ses ports. Mais des milliers de personnes sacrifiées sont condamnées à vivre une demi-vie dans des zones contaminées. Alors, Fukushima a-t-il vraiment été une catastrophe pour rien ?
Une catastrophe monstre en tout cas. C'est ce qu'avait écrit Jean-Pierre Dupuis, qui est notre invité aujourd'hui. Une triple catastrophe, disait le philosophe. Car la tragédie de Fukushima mêle trois types de catastrophes que l'analyse traditionnelle a l'habitude de séparer. Une catastrophe naturelle, une catastrophe industrielle et une catastrophe morale. C'est-à-dire que Fukushima englobe pour lui à la fois le tsunami, Tchernobyl et Hiroshima. Professeur à Stanford aux États-Unis, Jean-Pierre Dupuis a publié « Petite métaphysique des tsunamis » en 2005, « Retour de Tchernobyl », son journal d'un homme en colère en 2006 et puis tout récemment « L'avenir de l'économie » aux éditions Flammarion. Homme en colère, Michael Ferrier l'est aussi. Écrivain et essayiste résident à Tokyo, il vient de publier aux éditions Gallimard « Fukushima, récit d'un désastre » dans lequel il raconte comment il a vécu le séisme. Mais aussi comment les Japonais ont réussi à survivre dans cet enfer, dans cette demi-vie, dans cette vie diminuée et rétrécie. Dans le sillage des notes d'Hiroshima de Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature, il s'en prend à cette fraction des élites dirigeantes qui, avec le nucléaire, est en train d'imposer une entreprise de domestication comme on en a rarement vu depuis l'avènement de l'humanité, écrit-il. Alors, Fukushima, une catastrophe pour rien ? Alors, comme dit un personnage du film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, l'élite industrielle et politique n'a-t-elle rien vu à Fukushima ? Car il y a bien plus qu'une consonance qui rapproche Hiroshima de Fukushima. Alors dans ces retours du dimanche, vous entendrez les réponses de Jean-Pierre Dupuis et de Michael Ferrier, deux auteurs qui ont vu beaucoup de choses à Fukushima.
En mars 2011, le Japon est frappé par un séisme suivi d'un raz-de-marée. En quelques heures, le Pacifique emporte avec lui 20 millions de tonnes de débris.
L'explosion de la centrale Fukushima numéro 1 inquiète. Les autorités japonaises ont déjà ordonné aux habitants d'évacuer la zone de la centrale dans un rayon de 20 km.
Des radiations se sont échappées des réacteurs et le niveau semble très haut.
Nous pensons qu'il est d'une importance capitale que le gouvernement fasse preuve de transparence et d'honnêteté vis-à-vis des habitants des zones affectées. Les autorités doivent partager les informations avec tout le monde, même si c'est le genre d'informations qu'elles ne souhaitent pas diffuser.
Près d'un an après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les radiations inquiètent toujours.
L'inquiétude de Madame Watabe, c'est celle des centaines de milliers d'autres mères de Fukushima qui se posent désormais la question : comment nourrir leurs enfants sans risquer de les empoisonner ? car la région agricole de Fukushima, avec ses rizières et ses vergers, subit les retombées de l'accident nucléaire. Le sol contient du césium-137 radioactif, également retrouvé dans le riz.
Bonsoir Jean-Pierre Dupuis.
Bonsoir Agnès Chauveau.
Bonsoir Michaël Ferrier.
Bonsoir.
Michaël Ferrier, vous avez vécu la catastrophe de Fukushima il y a tout juste un an.
Oui.
Vous la racontez dans un livre, Fukushima, récit d'un désastre. Un an après, on voit bien, il y a eu un certain nombre de reportages qui ont été faits cette semaine. Il y a des journalistes, des correspondants sur place qui décrivent une ambiance lunaire. Michael Temann, par exemple, dans l'IB, un an après, Comment revivre, où il montre que le bord de mer de Minamizoma, à 20 km au nord de la centrale nucléaire de Fukushima, est un gigantesque no man's land, parsemé de cratères d'eau boueuse, de dalles de béton brisées, de poteaux électriques tordus, des tonnes de gravats qui gisent, des odeurs pestilentielles, un cauchemar écologique. Comment peut-on vivre ou revivre dans ce contexte ?
Mais écoutez, moi ce qui me frappe d'abord, c'est qu'on a eu avec Fukushima le séisme, le tsunami et donc la catastrophe nucléaire. On a eu au début une série, une cascade de catastrophes extrêmement spectaculaires, très médiatiques. Et aujourd'hui, un an après, on s'aperçoit que cette catastrophe a changé un petit peu, non pas de nature, mais de format si l'on veut, puisque aujourd'hui c'est une espèce de catastrophe lente. Une espèce de catastrophe continuée qui est en train de se diffuser petit à petit dans l'ensemble de la population, avec beaucoup de nuances, mais tout de même. Et donc, c'est cette nouvelle forme de vie que j'appelle la demi-vie qui est en train de prendre racine petit à petit, sans même qu'on s'en aperçoive de manière spectaculaire, donc sur laquelle j'ai voulu insister.
Alors, Jean-Pierre Dupuis, vous êtes allé à Fukushima, mais vous avez surtout fait une enquête à Tchernobyl. Et je voulais savoir, vous avez lu le livre de Michael Ferrier, Fukushima, récit d'un désastre, très beau livre précisément, qui utilise cette écriture fragmentaire et qui montre bien que c'est peut-être cette écriture plate de fragments, de notes, oui, qui peut le mieux sans doute, oui, décrire ce que nous appelons catastrophe. Y a-t-il, selon vous, à Fukushima, des similitudes ? Est-ce que cette demi-vie que décrit Michael Ferrier est-elle la même ou a-t-elle été la même à Tchernobyl, puisque nous sommes là 25 ans après, a-t-elle, oui, été la même dans cette vie contaminée que vous avez décrite dans votre livre Tchernobyl, journal d'un homme, retour de Tchernobyl, journal d'un homme en colère?
En termes d'observation, il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais je parierais néanmoins que dans 25 ans, disons, ou 24 ans, pour que ça fasse 25 ans, les discours qu'on entendra au sujet de la catastrophe de Fukushima ressembleront, dans leurs oppositions, à ce qu'on entend à propos de Tchernobyl aujourd'hui. Et ça trait exactement à ce que Michael Ferrier vient de dire. La catastrophe a changé de nature. Ça a commencé par un bang. Vous savez, il y a ce très beau poème de T.S. Eliot, The Hollow Man, les hommes creux, dont le film Apocalypse Now est tiré, et qui se termine par ce vers que tout anglais ou américain connaît, « Not with a bang, but a... » Not with a bang, but whimpers. C'est-à-dire pas avec une explosion, mais avec des gémissements. Hein, on est dans le gémissement, on est dans la lenteur, on est dans l'invisibilité. Quel est le problème exactement ? Il y a deux manières de mourir d'une catastrophe nucléaire civile. Les radiations qui vous arrivent immédiatement, hein, vous êtes brûlé. Alors, selon tous les experts, et je crois qu'il n'y a pas de raison de mettre leur parole en doute, il y a zéro mort à Fukushima, de cette manière. Zéro mort, tout simplement.
C'est ce que disent les autorités du
bon,
monde.
Non, c'est ce que disent les experts français, qui sont parfaitement neutres par rapport à ça. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de douter de la parole des experts. Enfin, si on met en cause l'honnêteté des experts, il y a quand même un problème.
Il faut d'ailleurs préciser que vous êtes également président du comité d'éthique et de déontologie de la Haute Autorité de Sûreté Nucléaire.
Alors, à vrai dire, de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui est le centre de recherche de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, pour préciser les choses. Bon. Mais je précise que, contrairement à ce qui s'est passé au Japon d'ailleurs, l'Autorité de Sûreté Nucléaire est complètement indépendante des opérateurs nucléaires français, CEA, Areva, EDF, etc. Non seulement indépendante, mais peut leur demander payer des comptes et leur imposer des choses, n'est-ce
alors,
pas ?
Petite précision alors, sur votre statut, mais vous disiez donc première façon d'être au fond.
Alors c'est d'être grillé, tout simplement, par la radioactivité très intense, etc. Bon, comme disons Hiroshima ou comme une bombe atomique. Mais la manière beaucoup plus insidieuse, c'est la contamination que l'on a lorsqu'on vit dans les zones dites contaminées et qui est due à ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, le bois dont on se chauffe, etc. Toutes choses qui sont contaminées au césium 137, au strontium 90, au plutonium 239, etc., etc., etc. Et alors, c'est ce qu'on appelle le problème, et c'est ça, c'est un sujet de controverse extraordinaire, le problème des faibles doses. Que se passe-t-il lorsque des millions de personnes, officiellement dans la zone contaminée produite par Tchernobyl, il y a 10 millions de personnes, essentiellement en Biélorussie, en Ukraine et un peu en Russie. 10 millions de personnes sur 25, 30, 40 ans. L'absorption continue de faibles doses, je répète, avec ce que l'on boit, le lait que l'on boit, ce que l'on mange, le bois dont on se chauffe, etc., etc. Quels sont les effets à long terme et sur de grandes populations de cela ? Eh bien, à cette question, personne aujourd'hui ne sait véritablement répondre. Alors, il y a des hypothèses. Moi, dans mon livre sur Tchernobyl, je fais une hypothèse et je conclus que Tchernobyl aura fait 40 000 morts de ce type, n'est-ce pas ? Par cette vie contaminée ou cette demi-vie dont Michael Ferrier parle. Mais le problème, c'est que ces gens, ces morts n'ont pas d'identité. On peut de nul... Et pour la raison suivante, si vous me donnez 2 minutes pour expliquer ceci. Un cancer dû à ce type de contamination est parfaitement indiscernable d'un cancer spontané. Donc la seule chose qu'on puisse dire sur l'effet de ces faibles doses, c'est que la probabilité a priori que quelqu'un avait de mourir d'une leucémie, par exemple, a été augmentée d'un chouïa du fait de Tchernobyl. Mais si ce chouïa, vous le multipliez par des millions de personnes, ça donne un chiffre du genre 40 000 morts, mais ces 40 000 morts n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de nom.
Alors on ne peut pas chiffrer les morts, mais Michael Ferrier, vous expliquez dans votre livre qu'une partie de l'élite dirigeante au Japon est en train d'imposer l'idée que l'on peut très bien revivre dans les zones contaminées. Et pour vous, c'est une entreprise de domestication comme on en a rarement vu depuis l'avènement de l'humanité.
Oui, alors je vais réagir un petit peu à ce que vient de dire Monsieur Dupuis. Évidemment, il faut faire crédit aux experts, pourquoi pas. Tout de même, présenter l'ensemble des experts du nucléaire comme des gens désintéressés me semble assez problématique. Vous faites une distinction entre le Japon et la France, et donc les problèmes en France seraient beaucoup moins graves puisque nous aurions des experts indépendants. On a vu quand même lors des stress tests, quand un gouvernement pro-nucléaire demande à des experts plus ou moins pro-nucléaire quand même, de constituer une commission et que le rapport de cette commission envisage le développement de l'industrie nucléaire, on ne va pas quand même s'étonner outre mesure. Donc il me semble qu'il faut raison garder, il faut quand même remettre les choses à plat et bien en face. Moi, j'ai vécu la catastrophe, non pas comme un expert, mais comme un simple citoyen au Japon. Et ce qui était très frappant, c'était de constater jour après jour l'évolution du discours des experts, leurs atermoiements, leurs faux fuyants, leurs faux semblants. Et là, vous aurez du mal tout de même à expliquer à quelqu'un qui a vécu ça au jour le jour, encore une fois, et sans aucune idéologie sous-jacente, hein. Vous aurez du mal à lui expliquer qu'il faut avoir absolument confiance dans la parole des experts du nucléaire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un des problèmes au Japon en ce moment, c'est cette défiance et cette méfiance à l'égard non seulement des autorités du nucléaire, mais des autorités publiques en général.
Un manque de transparence.
Oui. Voilà, une certaine opacité qui semble être quand même assez structurelle et presque constitutive de l'industrie nucléaire.
Jean-Pierre Dupuis.
Nous travaillons presque à front renversé ici, puisque je suis, j'ai l'image dans certains milieux d'être un catastrophiste et d'être toujours en colère.
Éclairé, comme
oui,
vous
certes
l'avez
éclairé. Alors justement, aujourd'hui, je vais plaider la raison. Il faut raison garder. Moi aussi, je suis en colère, mais la colère est mauvaise conseillère et il faut mieux cerner, me semble-t-il, les responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire les responsables, les responsabilités. Alors là, je pense que vous pensez à des gens que j'ai interviewés moi-même à Tokyo, qui sont les responsables du nucléaire japonais. Mais ce n'est pas cela que j'appelle les experts, n'est-ce pas ? Les discours que j'ai entendus à Tokyo étaient tous de type ce que vous décrivez, enfin, de parfaite mauvaise foi. D'ailleurs, 3 personnes que j'ai interviewées ont été vidées dans la semaine d'après. Non, rien à voir, bien sûr, avec mon interview. Mais,
j'espère bon, pas que ça pourrait être.
Non, par contre, quand je dis les experts, je pense aux experts français.
Vous trouverez votre indépendance ?
Oui. Oui, effectivement. Je pense aux experts français sur place, n'est-ce pas ? Et que je connais et qui sont vraiment des gens extrêmement honnêtes. Ce sont des scientifiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en clair, mais moi, les experts, si vous voulez...
Jean-Pierre Dupuis, sans parler même des experts, vous avez été à Tchernobyl, vous avez été à Fukushima. Oui. Si les chiffres qui sont publiés dans la presse sont bons, dans la presse française, il y a 62 000 personnes, soit seulement 3% de la population de Fukushima qui ont quitté le département.
Oui. Oui.
Donc, moins de 10% des enfants, toute cette population qui vit dans des zones qui sont quand même extrêmement contaminées, ça on le sait.
Oui.
Les experts sont d'accord sur le fait que ces zones sont extrêmement contaminées. Il y a quand même une responsabilité du gouvernement japonais, non ?
Ah, mais attendez, quand je dis les experts, je ne dis pas le gouvernement japonais. Enfin, écoutez, je crois qu'il faut faire des distinctions fondamentales.
Je vous la laisse
les
faire,
experts et les gouvernements, c'est deux choses différentes.
Non, mais vous voyez la responsabilité.
Les ministres de l'énergie, les ministres, etc., je ne les appelle pas des experts.
Attends,
les experts, ce sont des gens qui connaissent leur métier.
Est-ce que je peux vous poser une question ?
Bien évidemment.
Puisque vous parlez des experts français, est-ce que des experts français... On sait qu'il y a eu plusieurs explosions sur les réacteurs de la centrale de Fukushima.
Oui,
alors
oui.
Voilà, à l'hydrogène. Est-ce que des experts français, ceux que vous évoquez, ont évoqué la possibilité d'explosions qui ne soient pas des explosions d'hydrogène à ce moment-là ? Est-ce que cette possibilité a été évoquée
par
les experts français ?
On a même... Écoutez, pendant 2-3 mois, on a parlé... je reçois 2 fois par jour ou 1 fois par jour maintenant, parce que ça s'est quand même calmé, les informations qui viennent de Fukushima, n'est-ce pas, grâce précisément à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui suit l'affaire de très près. Pendant au moins 3 mois, ces fameux experts français sur place n'ont pas écarté ce qu'on appelle un accident de recriticité,
oui.
C'est-à-dire le redémarrage de la réaction en chaîne.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il l'écarte ?
Excusez-moi, laissez-moi terminer, parce qu'il faut être très précis ici. Au niveau des fameuses piscines. Alors, qu'est-ce que ces fameuses piscines ? Je ne vous conseille pas d'aller faire un plongeon dedans, n'est-ce pas ? On appelle ça des piscines, c'est bizarre. En anglais, on dit pool. Bon, c'est des bassins, disons, qui contiennent tout le combustible usé. Et dans les piscines des 4 réacteurs là, de Fukushima, il y avait bien l'équivalent de 10 à 15 cœurs de nucléaire qui étaient entreposés comme ça et qui s'enfonçaient. Et qui sont foncés avec augmentation de la pression et de la température. Pendant 3 mois, on n'a pas écarté la possibilité d'un redémarrage de la réaction en chaîne au niveau de ces piscines.
Mais
auquel cas, ça aurait été horriblement dangereux.
Mais aujourd'hui, quelle est la conclusion des experts ?
Les experts ne sont pas nécessairement toujours d'accord, n'est-ce pas ? Certains d'entre eux considèrent qu'il y a encore des dangers, et en particulier que... Je parlais des piscines, là. Mais il y a aussi les cuves, n'est-ce pas, des réacteurs, et qui sont dans des enceintes de confinement. Et le danger, c'est comme ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est que ce qu'on appelle le corium. Alors, qu'est-ce que c'est le corium ? Bon, un tout petit peu de technique. C'est la masse de produits radioactifs, de produits fissiles, qui a fondu. Alors, fondu, ce n'est pas la fusion nucléaire. Hein, c'est fondu, c'est-à-dire que c'est passé de solide à liquide. En emportant avec soi tout ce qu'il y a sur l'enceinte et le confinement, donc mélange d'acier, de fer, de tout ce que vous voulez, et de matière radioactive, cette masse magma liquide à des températures de dizaines de milliers de degrés, le risque, c'est qu'il traverse la dalle de béton sur laquelle sont les réacteurs et contamine les nappes phréatiques. Et alors là, c'est des centaines de kilomètres carrés qui sont... contaminés et la vie est impossible.
Alors, on a compris vos différences et vos différends sur le rôle des experts, mais Jean-Pierre Dupuis, vous disiez, ce sont des scientifiques. Or, vous le savez, vous êtes un philosophe et Michaël Ferrier aussi lit la philosophie, même s'il est un professeur de littérature, que Heidegger disait que l'essence de la technique n'est pas technique, que,
oui, mais...
au fond, la science, et vous avez préfacé le livre, la réédition du livre Hiroshima partout de Günther Anders, disant que au fond, cette vie contaminée est maintenant la nôtre. Et Michaël Ferrier, je vous donnerai la parole pour répondre premièrement à cette question. Vous parlez, vous, de ce brouillard radioactif, cette contamination de la chaîne alimentaire, et vous dites au fond que cette existence diminuée fait que les Japonais commercent avec l'ombre. Alors ce que vous nous dites au fond, c'est qu'il y a cette, selon vous, cette idéologie technico-scientifique et a abouti à cette catastrophe qui se répand aujourd'hui et qui change totalement la donne des existences contemporaines au Japon.
Oui, tout à fait. Alors, j'évoquais là, avec M. Dupuis donc, l'explosion du bâtiment numéro 3, en fait, qui a donné lieu effectivement à beaucoup de supputations. Je signale juste que dans le numéro de décembre du magazine Nature, la revue que vous connaissez, eh bien, l'ancien Premier ministre, M. Hatoyama, et un député du Parti démocrate, M. Taira Tomoyuki, ont admis tous les deux que l'explosion du bâtiment 3 n'était vraisemblablement pas, avec toutes les précautions d'usage des experts ou des simples citoyens, n'était vraisemblablement pas une explosion d'hydrogène, puisqu'on a quand même retrouvé du plutonium 238 à 45 km. Moi, ce qui me dérange, c'est pas tellement qu'il y ait querelle d'experts. Après tout, ça, c'est tout à fait légitime que les experts ne soient pas d'accord entre eux. Et ce qui me dérange profondément, et là encore en tant que simple citoyen, c'est que lorsqu'il y a une querelle de ce type et qu'on aboutit à un doute très profond sur la nature même de l'explosion, parce que là on aurait vraiment une explosion de type nucléaire et non pas d'hydrogène, eh bien tout d'un coup, cette information n'est plus relayée, disons, avec la même efficacité par nos experts. Voilà, c'est là où je mets un petit bémol et c'est là où je suis un peu suspicieux, si vous voulez, de l'information qui nous est prodiguée.
Une réponse très courte. Avant
écoutez,
que nous
elle est relayée
séquence.
Par les experts, mais alors là, c'est le problème du passage à l'opinion publique qui est en cause. Hein. Ça, je peux vous assurer que tout ce que vous venez de dire, ça a été écrit, ça a été lu, y compris dans la presse, la grande presse. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Bon, mais là, il y a quelque chose de très bizarre. Je suis un catastrophiste. Hein, et je trouve que ce qui se passe, par exemple, autour de Tchernobyl est un véritable scandale. J'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu, heureusement d'ailleurs, à Fukushima. Une ville de 50 000 habitants, sur pied, elle est là. Elle s'appelle Pripyat. Elle était à 2 km de la centrale Lénine. C'était le vrai nom de la centrale qu'on appelle Tchernobyl aujourd'hui. Elle est vidée de ses habitants pour 40 000 ans, quoi, à peu près. Hein. Alors, tous les immeubles sont là, n'est-ce pas ? On peut monter dans les étages. Bon, il vaut peut-être pas mieux y rester très longtemps. Moi, j'y ai déambulé pendant 8 heures. C'est hallucinant. On est dans la science-fiction. C'est l'horreur absolue. Oui, l'horreur nucléaire, elle est là. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. C'est ça. Je combats aussi. Mais il faut avoir les faits exacts. Je veux dire, c'est... Et les faits, malgré tout, qu'est-ce que vous voulez ? La science et la technique, elle nous les donne.
Bon. Les faits sont têtus, comme disait.
Les faits sont têtus, comme disait. Exactement. Les faits sont têtus.
Jean-Pierre Dupuis, vous évoquiez à l'instant l'opinion publique. Dans un article du Monde, Jean-Marie Bouissou, qui est directeur de recherche à Sciences Po, lui parle concernant l'opinion publique, parle de grave crise de délégitimation qui frappe de plein pied la classe politique, mais aussi les grandes entreprises, également les médias. Vous parlez dans votre livre, Michaël Ferrier, de contamination des esprits. Hein. Est-ce qu'on assiste à un délitement national au Japon ?
Un délitement national, c'est peut-être un peu trop dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est certain que cette catastrophe a réveillé ou a révélé des fractures profondes dans la société japonaise. Vous savez que les centrales de Fukushima, qui sont situées donc à 260 km environ au nord-est de Tokyo, alimentaient la mégalopole de Tokyo, 30 millions d'habitants, l'alimentaient en électricité. Il y a un philosophe japonais, Takahashi Tetsuya, qui parle donc pour l'industrie nucléaire, à partir de cet exemple, d'une structure de sacrifice, c'est-à-dire que l'industrie nucléaire reposait, selon lui, sur un système binaire. D'un côté, des gens qui sont exposés donc à des risques très cruels, les faits l'ont montré, puisque les faits sont têtus, donc. Et de l'autre côté, des gens qui en tirent bénéfice.
On appelle ça le village des tentes. C'est là, à Kazumigaseki, en plein quartier des affaires, que les Occupy Tokyo manifestent depuis 6 mois devant le ministère de l'Industrie. Leur combat à eux, c'est le nucléaire.
Cette tente, on l'a construite le 11 septembre dernier. Et depuis, on a reçu énormément de visites.
À ses côtés, Shina Sheko vient de Fukushima. Elle aussi squatte ici depuis des mois.
Avec ce village de tente, on a voulu marquer le point de départ de la contestation anti-nucléaire. On s'est mis là exprès, dans le quartier des affaires, pour être visible aux yeux du gouvernement. On sait que ça les gêne qu'on soit là. Ils n'aiment pas ça, mais c'est la seule façon d'agir.
Michael Ferrier, la catastrophe de Fukushima a donné lieu à un véritable vaste débat sur l'énergie nucléaire un peu partout dans le monde, mais d'abord au Japon, où il y a un vrai mouvement anti-nucléaire qui s'est constitué, en partie porté par le prix Nobel de littérature Kenzaburo Oe, avant même la catastrophe, mais qui a repris quand même beaucoup de vigueur. Il y avait hier au Japon, enfin aujourd'hui, hier avec le décalage horaire samedi 11 février, beaucoup de manifestants à Tokyo et un peu partout dans le Japon. Vous pensez que cette remise en cause est durable? Je rappelle qu'il y a 54 centrales qui ont stoppé. Enfin, qui
54
sont, qui,
réacteurs.
54
oui.
réacteurs qui ne sont oui. plus en
il a,
activité.
Il y en a encore deux qui sont en activité et qui vont être arrêtés d'ici la fin avril.
Donc pour vous, c'est une remise en cause durable ou...
Alors ça, l'avenir le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a eu des mouvements anti-nucléaires assez forts. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'essouffle un petit peu. Parce que, par
on
exemple,
disait que les manifestations
oui,
à
les
Tokyo
manifestations,
ont pas été aussi importantes.
J'ai regardé ce matin sur les sites japonais. Il y a eu 16 000 personnes seulement à Fukushima même. À Tokyo, il y a eu 10 000 personnes. À Osaka, 7 000. Et dans le nord-ouest du pays, à Tsuruga, là où il y a une extraordinaire concentration de 14 centrales ou de 14 réacteurs, il y avait seulement 1 200 personnes. Donc, moi, ce qui m'apparaît important, c'est que il y a des mouvements qui se sont mis en place, des mouvements citoyens, des associations. Les intellectuels ont réagi vraiment très vite. Vous avez cité Oe. Moi, je rends un hommage solennel à Oe Kenzaburo, qui est quand même un grand monsieur, un grand bonhomme, qui avait décidé d'arrêter d'écrire et qui a repris là, le flambeau pour parler de Fukushima.
Oui, il faut le signaler d'ailleurs, parce que dans la dernière livraison de la NRF, un numéro sur le Japon intitulé « Du Japon » dirigé par Philippe Forest, oui. Kenzaburo Oe, on dit en japonais hein, « Oe Kenzaburo oui. » avec un accent que je n'ai pas, que vous avez. Il dit effectivement il y a un long entretien avec Philippe Forest dans lequel il dit je souhaitais arrêter d'écrire des romans, mais il y a eu Fukushima.
Voilà, et donc il s'y recolle, quoi. Il y va à nouveau et chapeau, vraiment un grand hommage à Oe Kenzaburo. Mais alors, ce qui est important et ce qui moi m'apparaît un peu problématique aujourd'hui, c'est que toutes ces initiatives dans le monde intellectuel ou alors au niveau des citoyens, les associations, etc., peine un petit peu à trouver une traduction politique. On en reste un peu, c'est du moins mon opinion, ma sensation, on en reste un peu à un niveau, disons, proto-politique. Fédérer toutes ces énergies pour arriver à une véritable solution politique, un véritable mouvement d'opposition, par exemple, qui serait uni, semble un petit peu problématique en ce moment.
Alors, Jean-Pierre Dupuis, vous avez donc développé cette idée d'un catastrophisme éclairé. Vous disiez tout à l'heure, je suis catastrophiste, donc ne faites pas de moi un scientiste qui voudrait imposer des centrales nucléaires partout. Mais alors, du point de vue de votre catastrophisme éclairé, qui, en résumé, mais vous me reprendrez sans doute, et imagine d'anticiper précisément la catastrophe, mieux penser pour mieux la prévenir et mieux l'éviter. Est-ce que cette sortie du nucléaire qui est envisagée un petit peu partout aujourd'hui par certains mouvements, ils ne sont pas très nombreux. On voit bien que même la vision écologique est un petit peu absente, on va dire, de cette campagne présidentielle française, par exemple. Est-ce que vous considérez, du point de vue du catastrophisme éclairé qui est le vôtre, qu'une sortie du nucléaire serait souhaitable, ou est-ce que vous comprenez en tout cas ces arguments?
Pour répondre à cette question, il faut dérouler beaucoup de choses. Si on s'arrête à l'immédiat, regardez, l'Allemagne est en train de sortir du nucléaire. Elle l'a décidé au plus haut niveau. Qu'est-ce qui se passe? EDF se frotte les mains.
Parce que l'Allemagne achète de l'électricité nucléaire à la France depuis sa décision, n'est-ce pas ? Alors les centrales nucléaires françaises tournent mieux et c'est parfait, EDF se remplit les poches avec ça. Bon.
Là, il faut simplement donc, juste une petite précision technique, si je puis dire, pour, oui. pour nos auditeurs, que si l'énergie nucléaire fournit 15% de l'électricité dans le monde, la part du nucléaire dans la production en France s'élève à 78%,
exactement.
Environ
selon
le CEA.
Exactement. Et même en termes de ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie que nous fournit la nature et que les hommes... mettent à leur usage, l'électricité, l'énergie nucléaire civile constitue même pas 6%, 5,5%. Donc on peut dire que c'est effectivement très faible. Mais alors, ça amène à élargir le problème. Je crois qu'il est impossible de poser la question de l'énergie aujourd'hui, et donc de l'énergie nucléaire en particulier, sans penser et sans faire intervenir la question du climat. Hein ? Nous sommes enserrés dans cet étau entre d'un côté... les ressources fossiles s'épuisent, le nucléaire est en question, les énergies renouvelables, soleil et vent, bon, c'est bien beau, mais elles coûtent pour l'instant beaucoup plus cher que le nucléaire, et surtout, elles sont intermittentes. Alors, vous savez qu'on ne sait pas stocker l'électricité, hein, même pour nos ordinateurs, on a une batterie qui dure 5 heures, 6 heures. Alors, quand on fait du solaire et du vent, il faut... pour les moments où il n'y a plus de soleil ou il n'y a plus de vent, il faut faire marcher des centrales au charbon qui coûtent très cher et qui produisent du CO2.
Jean-Pierre Dupuy, oui. On voit bien quand même que cette remise en cause, elle est partielle. Aux États-Unis, on a autorisé la construction de 2 réacteurs. Il y a aussi un certain nombre de pays... enfin d'États émergents pour lesquels la question de la remise en cause de l'énergie nucléaire ne se pose même pas. Vous écrivez vous-même dans un de vos livres que, la catastrophe, c'est une pédagogie très, très inefficace.
Tout à fait.
Donc qu'est-ce qu'on apprend de ces catastrophes ?
Mais attendez, c'est justement... Pourquoi est-ce que malgré des accidents comme Tchernobyl et Fukushima...
Il n'y a pas de remise en cause.
Oui, il n'y a pas de véritable remise en cause
alors
du nucléaire.
Pourquoi
mais pour la raison que je suis en train de vous dire, que je commençais à vous dire.
Allez-y alors.
Si on tient compte de la contrainte climatique. Alors évidemment, le problème des catastrophes climatiques, c'est qu'elles sont parfaitement abstraites. Hein, parce qu'elles touchent l'avenir et on ne voit pas comment elles vont se manifester. Je pense qu'elles vont se manifester moins par la montée des eaux, l'augmentation de la sécheresse ou de la température autour de la Méditerranée, etc. Elles vont se manifester par des guerres. Et des guerres... produites par des migrations qui anticipent ces événements. Bon, mais tout ça est abstrait parce que ça touche l'avenir. Donc, les catastrophes climatiques, on ne la voit pas. Et pourtant, elle est là, devant nous. Alors, nous sommes pris en étau entre la contrainte climatique d'un côté et d'autre part, la question de l'énergie. Épuisement des ressources fossiles, la question du nucléaire extrêmement dangereux. Les énergies renouvelables qui ne sont pas au point et qui ne sont pas au point parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Mais donc, les pays qui peuvent encore faire du nucléaire en font. Puisque ça permet... Sinon, qu'est-ce qui se passerait ? Sinon, ce serait un véritable changement. Et moi, je ne suis pas contre. Au contraire, j'ai milité pour cela. Mais je pense qu'il ne se ferait pas sans violence. Un changement de civilisation dans lequel, par exemple, notre mobilité... Bon, il se trouve que, je ne sais pas, M. Ferrier, sans doute, voyage entre le Japon et la France. Moi, j'ai deux autres, en dehors de la France, j'ai deux autres pays de référence, du fait de mon histoire personnelle, le Brésil où vivent mes enfants, les États-Unis où je travaille. Bon, je suis un gros consommateur de transport aérien. Eh bien, si nous renonçons au nucléaire, si nous tenons compte de la contrainte climatique, je crois qu'il faut diviser pour chacun d'entre nous, et des gens comme moi vont souffrir plus, mais ça, je suis riche, par à peu près 3, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes prêts ? Et ça n'est que le transport, ceci. Hein.
Peut-être que l'avenir est donc pour certains qui veulent sortir du nucléaire, donc une sorte de sobriété énergétique, effectivement.
Oui, tout à fait.
Des déplacements plus longs.
Ben oui, je sais bien. Illich, qui fut mon maître, disait...
auprès de vos enfants hein, au Brésil, et peut-être
Ivan Illich, qui fut mon maître, avait coutume de dire « Nous serons heureux lorsque chacun d'entre nous considérera que le centre du monde est sous ses pieds. » Mais lui-même était un globe-trotter. Il n'arrêtait pas de parcourir le monde.
Alors, il est 17h48, vous écoutez les retours du dimanche. Et ce soir, Fukushima, une catastrophe pour rien, avec Jean-Pierre Dupuy et Michaël Ferrier. En débat, un an après, comment survit-on suite à une catastrophe nucléaire majeure ? La remise en cause de l'énergie nucléaire est-elle durable ? Et à présent, comment reconstruire, comment prévoir les catastrophes ?
Shiroi kemuri ga, like the white smoke is coming from Daiichi nuclear power plant.
Atashitachi wa shibaraku tada nani mo surukoto naku bouzen to imashita ne.
I didn't understand why the people haven't evacuated.
On sait que dans 10 ans, il y aura des enfants qui ont des problèmes graves.
Can you see radiation right now?
No.
言ってたんです。もうレントゲンとかに比べてこんな少しの量だから。
東電も自分たちの代で。
Alors vous venez d'entendre la bande-annonce d'un web documentaire qu'on peut regarder sur le site d'Arte et qui c'est une série, un web-série poétique et émouvante qui nous mène à la rencontre de ces Japonais qui vivent aujourd'hui l'enfer dans la radioactivité. Jean-Pierre Dupuis, vous écrivez que le risque zéro n'existe pas, c'est impossible, c'est un idéal impossible.
Mais c'est un truisme, oui, c'est un truisme.
Donc, selon vous, ni la prévention classique des risques, ni le principe de précaution ne sont viables. Et comment, dès lors, on peut penser la catastrophe ?
Écoutez, en 5 minutes...
En lisant votre livre.
Ces 10 dernières années, depuis le 11 septembre 2001, j'ai publié 11 livres sur la question des catastrophes. Alors bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a une notion que j'aimerais mettre en avant. Ce n'est pas la réponse
Allez-y.
À votre question, c'est la notion qu'on représente avec un geste. C'était à moins 5, hein, je mets mes deux doigts là comme ça, il était moins 5. Ce qui aurait pu se produire qui ne s'est pas produit, ou ce qui s'est produit qui aurait pu ne pas se produire. Fukushima aurait pu ne pas se produire si les digues avaient été simplement plus hautes de 4 ou 5 mètres, les digues anti-tsunami. Bon, c'est pas certain, bien sûr, que ça ne serait pas produit, mais ça aurait quand même eu un effet. On trouve, Michael Ferrier, vous avez dû les voir, il y a des stèles dans la région où on voit la hauteur des tsunamis précédents. Hein, il y en a qui font 15 mètres. Bon,
tout à fait, cette catastrophe avait été prévue, contrairement à ce que je
Exactement.
Lis ici ou là. Beaucoup
Exactement.
De gens avaient anticipé.
Exactement.
J'ai au moins 5 ou 6 exemples de personnes, des scientifiques,
Exactement.
Des hommes politiques, qui avaient anticipé cette catastrophe. Il y a une question qui avait été posée à la Diète, donc l'Assemblée japonaise. Il y a une scientifique américaine qui avait publié un article sur la roulette nucléaire, ça s'appelait comme ça dans le journal, dans le Japan Times, donc un journal en anglais. Il y a eu un article aussi dans le Herald Tribune. Tous ces articles donnaient les éléments de la catastrophe qui allait se produire. Donc là, il y a aussi un argument qu'il faut mettre à bas, vraiment un mythe.
Comment vous expliquez cet aveuglement, Jean-Pierre Dupuis ?
Eh bien, écoutez, récemment, le patron actuel en français du CEA a dit, c'est hier ou avant-hier, je crois, qu'il ne comprenait pas qu'il était impuissant à comprendre comment les Japonais, c'est peut-être facile de sa part de dire ça, n'avaient pas tenu compte de l'histoire des tsunamis dans la région. Bon, et qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû fermer Fukushima numéro 1, Daiichi. Bon. Alors, écoutez, donc, si le patron du CEA ne sait pas répondre à cette question, au sujet des Japonais,
Michael Ferrier, quand même, je voulais savoir comment vous montrez précisément comment la population japonaise vit avec la catastrophe, précisément, et comment elle peut s'en sortir. Vous dites, au fond, elle s'en sortira, elle l'a déjà fait. Par contre, le problème subsistera, c'est le problème nucléaire. Il faut vivre avec ce commerce de l'ombre
oui.
dont parle un écrivain japonais célèbre, avec ce bélier souterrain, comme dit Paul Claudel aussi, auquel vous vous référez. Qu'est-ce que c'est que la vie au quotidien avec la catastrophe possible, comme si quelque chose, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire, vous qui l'avez vécu au Japon même, de vivre précisément avec la fin du monde sur sa tête ?
Alors, je ne sais pas si c'est la fin du monde, mais en tout cas, c'est une menace. Moi, j'appelle ça un dieu terrible et anodin. C'est-à-dire que c'est une menace imperceptible, incolore, invisible, tout comme l'argent, le nucléaire n'a pas d'odeur. Et donc, il y a une espèce d'ambiance qui s'installe et qui donne lieu d'ailleurs aussi à des exagérations, à des paranoïas. On se méfie de la pluie, on se méfie de certains légumes verts, parce que les légumes verts à larges feuilles sont particulièrement réceptifs à la radioactivité. Les champignons, on n'en mange plus ou très peu. Ouais. Les épinards, vous mangez des épinards de Fukushima, vous voilà maintenant survitaminés comme Popeye. Enfin bref, il y a cette espèce d'ambiance très étrange. Tout le monde n'est pas touché par cela. Il y a des gens qui sont relativement indifférents. Mais tout de même, on l'a entendu d'ailleurs dans les reportages ou les petits clips sonores que vous avez diffusés, certaines catégories de la population sont particulièrement touchées. Les femmes enceintes, les jeunes mamans qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont donner à leur enfant, qui culpabilisent, qui angoissent, peut-être de manière inconsidérée, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et qui,
tout
je crois, est extrêmement vague.
Tout un ensemble d'initiatives citoyennes, disait-on oui. D'ailleurs dans les reportages, où en fait les citoyens s'organisent de façon à se protéger ou à tenter de se protéger
voilà,
au risque de la désinformation, effectivement.
Au risque de la désinformation. Mais là encore, c'est un peu pour enfoncer le clou aussi. Il y a de la part des autorités du nucléaire en général une irresponsabilité tout de même. Je lis parfois dans les déclarations... on dit on va mettre plus de sécurité, on va développer la sécurité, puis on va faire de la pédagogie et de la transparence. Chiche, jouons carte sur table, faisons de la pédagogie et de la transparence et on va voir où ça va mener.
Alors Jean-Pierre Dupuis, je voudrais savoir, vous aussi, puisque vous avez fait cette enquête à Tchernobyl, comment on vit avec la catastrophe au quotidien et pourquoi. C'est d'ailleurs un auteur de la Nouvelle Revue Française, Christophe Fiat, qui remarque avec ironie que nos deux pays, la France et le Japon, ont choisi deux figures très différentes pour figurer, précisément, représenter l'ère atomique. Les Japonais ont choisi le méchant Godzilla, vous savez, cette créature hybride entre une baleine et un gorille qui se réveille après les essais nucléaires, et les Français ont opté pour le sexy bikini. Alors, comment... percevoir, prenez-vous la différence,
alors,
prenez-vous
y a plus...
cette différence d'approche entre nos deux pays.
Alors, il y a plusieurs questions dans votre questionnement, là, si je peux dire. Mais je réponds d'abord à cette dernière question. Parce que je travaille aussi sur l'arme nucléaire, hein, c'est-à-dire la question de la dissuasion nucléaire, aujourd'hui, à l'ère du terrorisme et de la prolifération. J'ai dans mes archives une collection de publicités des années 50 américaines. C'est l'ère de l'émancipation de la femme américaine. Elle envoyait des réfrigérateurs, des machines à laver, etc. Avec une pin-up, comme on disait à l'époque. Et derrière la pin-up, il y a un champignon atomique. C'est-à-dire que l'atome était un argument de vente à l'époque, n'est-ce pas ? La radioactivité était un argument de vente.
La bombe anatomique, disait-on.
Oui. Mais alors, je voudrais répondre à votre question sur... Et là, je suis tout à fait en phase... avec Michael Ferrier, ce que j'ai vu à étudier à Tchernobyl, enfin dans la zone contaminée de Tchernobyl, va tout à fait dans le même sens. Ce qu'on dit là-bas, ce que les autorités ukrainiennes disent, c'est qu'au fond, on peut vivre très bien dans cette... il suffit de vivre comme on vit dans une voiture sur une autoroute, n'est-ce pas ? Il y a des règles simples à respecter, on met la ceinture, on respecte une certaine distance avec la voiture de devant, et comme ça, on peut vivre. Bon, vous imaginez la vie sur le modèle... D'un séjour en voiture sur une autoroute, c'est horrible. Moi, ce que j'ai observé à Tchernobyl, dans la région, c'est deux types d'attitudes très différentes. L'attitude, je dirais, des gens qui sont obsédés par la catastrophe et ceux qui préfèrent l'oublier. Et ceux qui préfèrent l'oublier, pour vivre justement. Et ceux qui l'oublient, bien évidemment, ils se nourrissent n'importe comment, ils boivent n'importe comment, et ils vont tomber malades, ça va de soi.
Merci Jean-Pierre Dupuis, on est heureux de terminer cette émission et que vous soyez en phase, enfin, avec Michael Ferrier. Michael Ferrier, merci à vous.
Tout est possible, donc. Oui.
Alors Michael Ferrier, je ne sais pas si vous connaissez ce clip, c'est Okome Takeru no Ishiza, sans accent. Hein. C'est la troupe qui peut cuire du riz et c'est un clip et une chanson qui parodie le lobby nucléaire.
Ouais, ben écoutons-le alors.
Bien, merci à toutes et à tous d'avoir écouté les Retours du Dimanche. Merci à Jean-Pierre Dupuis. Je précise que vous avez publié Retour de Tchernobyl, journal d'un homme en colère, aux éditions du Seuil et tout récemment aux éditions Flammarion, l'avenir de l'économie. Merci à vous, Michael Ferrier. Vous venez de publier Notes de Fukushima, Fukushima, récit d'un désastre, aux éditions Gallimard.